le psaume 85. Au chef de chœur, psaume des fils de Corée. Alors, les fils de Corée, tout d'abord, c'est une confrérie de chantres, donc d'origine lévitique. Donc, juste qu'on sache un peu qui c'est. Donc, tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as enlevé la faute de ton peuple. Tu as pardonné tous ses péchés. Tu as retiré tout ton courroux. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Mets fin à ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Étendras-tu ta colère de génération en génération? N'est-ce pas toi qui vas revenir nous faire vivre, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bienveillance et donne-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pour qu'il ne retourne pas à la folie. Oui, son salut est proche pour ceux qui le craignent, afin que la gloire demeure dans notre pays. La bienveillance et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre et la justice se penche du haut des cieux. L'Éternel aussi donnera le bonheur et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin. Alors on va se concentrer ce matin sur les versets 1 à 8. Parce que ce psaume est tellement riche que j'avais essayé de préparer l'application sur le psaume en entier, mais il y a tellement d'informations, tellement de choses que j'ai dû le couper en deux. Donc on va se concentrer sur les versets 1 à 8 ce matin. Et notre partie du psaume nous met en garde de deux dangers. Et donc il faut qu'on écoute bien ce que Dieu nous dit à travers ce psaume. Quels sont ces deux dangers? Eh bien, le premier, c'est de jamais être content avec ce qu'on a. C'est les versets 2 à 4. Et le deuxième danger, c'est de se contenter avec moins que ce que Dieu veut nous donner. Alors, la première chose, on comprend bien, ne jamais être content avec ce qu'on a. On connaît bien en France aussi. Mais la deuxième chose, se contenter avec moins que ce que Dieu veut nous donner, là peut-être on a plus de difficultés à cerner. Peut-être juste un exemple pour montrer à quoi ce psaume nous fait penser. Alors les bébés à un certain âge aiment beaucoup jouer avec les papiers d'emballage et les films plastiques. Alors mon fils en ce moment il est un peu dans cet âge-là. Alors, il passe pas mal de temps à prendre ça dans la main, à jouer avec, à déchirer, à observer, à prendre dans la bouche. Et donc, c'est très bien qu'un bébé apprécie ça et qu'il joue comme ça. Mais imaginons donc ce bébé imaginaire et qui, en grandissant, il continue à jouer avec le papier, avec le film plastique, alors que pendant ce temps, il est entouré de peluches, d'instruments de musique, de toutes sortes, de petits livrets. Donc en fait, en d'autres mots, il a tout un monde de jouets autour de lui, tout un monde de joie, mais il passe à côté parce qu'il se contente avec moins que ce qu'il devrait avoir. Et donc ce danger existe de se contenter de moins, avec moins que ce qu'on a. Allez, on va se lancer dans ce psaume. Donc on va voir deux choses. La première chose, donc, c'est les versets 2 à 4, c'est que Dieu a agi. Et la deuxième chose, c'est les versets 5 à 8, c'est la demande que Dieu agisse. Donc premier point, Dieu a agi. Deuxième point, demande que Dieu agisse. Alors, de qui est-ce qu'il est question ici dans ce psaume? Nous lisons verset 2, ton peuple. Verset 2 encore, Jacob. Jacob, c'est un autre nom pour Israël, pour le peuple d'Israël. Donc la personne qui s'exprime ici prend la place en fait de tout le peuple d'Israël. Au verset 9, on voit que c'est j'écouterai, donc c'est une personne qui parle pour tous. Et donc qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le contexte? Au verset 2, nous lisons, tu as ramené les captifs de Jacob, tu as ramené les captifs d'Israël. Donc nous voyons ici que Israël avait été amené en exil, ils étaient loin de chez eux, loin de leur terre, de ces terres que Dieu leur avait promis, ces terres qui étaient leur fierté, ils avaient été amenés en exil vers Babylone. Cet empire mondial à l'époque, hein, ce grand empire, le plus grand qui existait. Et donc là, c'est vers l'an 605 avant Jésus-Christ, ils sont amenés loin de chez eux. Et ça représente pour eux une honte énorme, parce que justement, Dieu avait promis cette terre, Dieu avait promis qu'il serait là, que ce serait leur territoire. Dieu avait permis qu'ils aient le temple au milieu d'eux, et là Dieu s'est retiré et ils sont loin maintenant de leur terre. Et donc c'est une forme de punition que Dieu a envoyée parce que eux-mêmes, donc les Israélites, s'étaient détournés de lui. S'étaient détournés de lui. Et beaucoup étaient morts lorsque donc il y avait eu plusieurs batailles, la guerre qui ravageait. Il y avait eu des maladies, il y avait eu un manque de nourriture, donc la faim, des personnes qui sont mortes de faim. Donc toutes sortes de détresses que ce peuple avait rencontrées suite à sa rébellion contre leur Dieu. Et donc ici au verset 2, nous lisons, tu as été favorable à ton pays. Donc il y a un retournement de situation, quelque chose a changé. Donc après en fait cette punition, maintenant nous arrivons à la fin de cette punition, et donc qui a duré 70 ans. Et donc là maintenant Dieu commence à ramener son peuple chez lui. Dieu reconduit son peuple chez lui, il rétablit son peuple. Et donc ils ne sont plus captifs, mais tout à coup ils se retrouvent en liberté. Et ils retrouvent le pays, leur pays d'origine. Alors juste une petite parenthèse. Il y a des gens qui pensent que en fait, il s'agit du retour de l'exil en Égypte qui avait eu lieu avant, vers 1500, avant Jésus-Christ. Mais en fait, quand on regarde vers le verset 3 surtout, tu as pardonné tous ses péchés. En fait, lors de la sortie d'Égypte, il n'y avait pas eu une conversion massive des Israélites. Parce que nous lisons dans le texte que la majorité, la grande majorité, est tombée dans le désert parce qu'ils étaient donc infidèles envers Dieu. Ils ne croyaient pas réellement. Alors que ce texte ici qu'on a devant nos yeux, il nous dit, tu as pardonné tous ses péchés. Donc en fait, le psalmiste parle d'un rétablissement d'une majorité, d'une conversion d'une grande majorité du peuple d'Israël. Et c'est pour ça que nous pouvons, avec grande assurance, dire qu'il s'agit en fait du retour de l'exil de Babylone et non pas du retour de l'exil d'Égypte. Et donc, comme j'ai déjà un peu fait entendre, dans le verset 3, nous voyons donc après donc ce rétablissement en plus. Il y a un rétablissement intérieur. Il y a un rétablissement extérieur, donc ils retournent dans leur pays. mais un rétablissement intérieur qui a lieu aussi. Verset 3, tu as enlevé la faute de ton peuple. Et après, tu as pardonné tous ses péchés. Ou alors littéralement, tu as couvert tous leurs péchés. Et lorsque Dieu couvre quelque chose, aucun homme ne peut le découvrir, enlever. Et donc Dieu ne voit plus, le péché a disparu, parce que Dieu a pardonné parfaitement. Et donc nous voyons ici effectivement, donc oui, de nombreuses personnes se sont tournées vers Dieu et ont connu ce qu'on appelle une conversion. Et donc ont connu cette expérience magnifique du pardon des péchés. Et ce pardon, en fait, que Dieu accorde est quelque chose d'étonnant. Et quelque chose d'étonnant quand on lit au verset 4, tu as retiré tout ton courroux, tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Parce qu'en fait, il y avait eu une peine juste commise par rapport à cette peine commise envers leur Créateur. Et maintenant, tout à coup, il y a un arrêt, ça s'arrête net. Et Dieu transforme la malédiction en bénédiction. Alors, il y a des personnes qui peuvent rétorquer à ça quand ils lisent, quand ils entendent « Tu as retiré tout ton courroux, ta colère. » Ils peuvent se dire « Ben, et voilà, c'est bien ce que je pensais, le Dieu de la Bible est un Dieu coléreux. » Je n'ai pas besoin d'un tel Dieu. Si vous pensez comme ça, peut-être aussi en écoutant en ligne ce message, de quoi avez-vous besoin? C'est la question que je vais vous poser. De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin d'un Dieu qui vous dise « Tu es super, cool, comme tu es. Je t'encourage dans tout ce que tu fais. » Est-ce que vous avez besoin d'un Dieu qui dise à celui qui a mutilé un enfant, continue comme ça. Qui dise au meurtrier, bravo, je te soutiens à fond avec ce que tu fais là. Est-ce que vous avez besoin d'un Dieu qui dise à celui qui utilise des femmes, des hommes, comme des objets sexuels, je t'approuve tellement. Et est-ce que vous avez besoin d'un Dieu qui dise au menteur, bon, tu détruis par ton comportement, tu détruis ta famille, tes amis, tes amitiés, toute relation, mais c'est tellement génial, continue. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous ne désirons pas un Dieu comme ça. Et si un Dieu comme ça existait, il ne mériterait pas notre adoration. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous le ressentons au plus profond de nous-mêmes, c'est que le mal appelle à une justice juste, à une réponse juste, à une punition. Et donc, heureusement que Dieu est comme ça, qu'il est en colère face à votre péché, face à mon péché, qui détruit. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'étonnant lorsque Dieu revient, en fait, de sa colère. Lorsque Dieu s'arrête d'être en colère face au mal. C'est tout à fait étonnant. Comment c'est possible? On a envie de s'écrier, mais comment c'est possible? Et donc, pour résumer un peu ces versets 2 à 4, en fait, nous lisons ici les lignes qui retracent un passé glorieux, magnifique pour Israël. Si on regarde bien, en fait, à 6 reprises, on a le mot « tu ». 5 fois, c'est « tu as ». Tu as été favorable, tu as pardonné, tu as fait, Seigneur. Une fois, tu es revenu. Donc vraiment, l'accent est vraiment mis sur le fait ce que Dieu a fait, que Dieu a agi. Et lorsqu'on regarde bien, donc c'est quelque chose de merveilleux. Il est intervenu, il a agi. Il n'a pas continué à punir, mais il a maintenant béni son peuple. Et donc, c'est donc la chose qu'on voit, Dieu a agi dans le passé, et aussi dans la vie de ceux d'entre vous qui croient, Dieu a agi dans votre passé. Et il y a quelque chose de tout à fait étonnant, et on ne devrait pas perdre cet étonnement lorsqu'on pense au fait que Dieu a agi dans notre vie. Dieu est revenu, Dieu est venu vers nous, et on devrait penser au fait et ne pas oublier, mais oui, que tu as été bon lorsque tu t'es tourné vers moi, lorsque tu m'as pardonné, lorsque tu m'as rencontré, lorsque tu es venu vers moi. Et avec ce texte, je souhaite vous poser deux questions. Est-ce que vous connaissez de ce dont il est question ici? Est-ce que vous avez connu cette délivrance, ce pardon? Ou est-ce que vous vous trouvez ici comme un aveugle face à la beauté d'un lever de soleil? Vous vous entendez parler autour de vous de toutes les couleurs si belles, de toutes ces nuances, mais à vous personnellement, ça ne vous dit rien. Parce que vous n'avez jamais vu ce lever de soleil, qu'est la grâce de Dieu dans la vie d'un homme. Est-ce que vous vous sentez aveugle face à ce texte? Vous entendez parler de l'étendue, de la grandeur du ciel qui s'offre à tous ceux autour de vous, mais en vous, ça ne fait rien vibrer. Il n'y a pas de réponse en vous face à ça. Et vous vous sentez seulement étranger à cette réalité qui est décrite ici. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Si c'est le cas, je vous invite à écouter une strophe du chant qu'a écrit Isaac Newton au XVIIIe siècle. Et cette strophe, c'est la suivante. Ô grâce infinie qui vint sauver, ô grâce infinie qui vint sauver, un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. J'étais aveugle, je vois. Et nous étions tous aveugles, comme John Newton. Mais il y a de l'espoir, comme lui. Lui qui était... Il a amené les esclaves sur son bateau. Dieu lui a donné la vue, et il a vu toute cette gloire, toute cette beauté qu'est le pardon que Dieu nous offre. Et pendant toute sa vie, à travers ce chant, il s'est rappelé de ça. Et il nous invite aussi à nous rappeler de ça. Et avant tout, bien sûr, c'est ce psaume qui nous invite à nous rappeler de ça, les grandes choses que Dieu a faites. Et après ça... Nous voyons au verset 5 qu'il y a un « mais ». Il y a un grand « mais ». Et le verset 5 commence par « Rétablis-nous, Dieu de notre salut ». En fait, ces choses que l'optimiste décrit ici, c'est du passé. Ce n'est plus le cas maintenant. Il y a de la nostalgie dans ces 4 premiers versets, une douleur. Et en fait, il se rend compte maintenant, j'ai besoin d'être rétabli, nous avons besoin d'être rétablis. Et donc, il y a une détresse profonde et grande qu'il ressent, et il fait part de cette détresse à son Créateur. Et il y a ici quelque chose, une leçon pour chacun d'entre nous à apprendre, quelque chose de très important, c'est lorsque tu t'adresses à Dieu, lorsque tu parles à Dieu, il faut que tu te souviennes que tu parles à Dieu. Tu parles à celui qui t'a fait du bien, qui est venu vers toi dans ton passé, et même envers les non-chrétiens, n'est-ce pas? Il fait pleuvoir, il donne du pain, à la nourriture, beaucoup de bonnes choses. Et combien plus encore nous qui croyons? Et donc, il faut venir en tant que personne reconnaissante par rapport à cette bonté qu'il nous a montrée. Et après, bien sûr, Dieu nous invite à lui dire ce qui pèse sur notre cœur, et nous voyons que il y a une chose importante qui pèse sur le cœur de cet homme qui a écrit ce chant, ce psaume 85. Et on veut maintenant regarder donc la demande, on arrive au deuxième point, donc la demande du psalmiste que Dieu agisse, que Dieu intervienne, que Dieu fasse quelque chose. Il y a plusieurs impératifs dans ces versets, et donc dans le premier verset 5, il y a deux impératifs. Rétablis-nous, mets fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre le verset 4 et le verset 5? Pourquoi tout allait, on aurait dit, tout allait tellement bien à la fin du verset 4? Eh bien, depuis leur retour donc de Babylone en Israël, il y a eu de nouveaux péchés, de nouvelles rébellions du peuple des Israélites envers Dieu. Et donc, il y a de nouvelles raisons pour que Dieu soit irrité, on a le mot, hein, indignation, verset 5, irrité, verset 6, colère, verset 6. Et donc, à nouveau, cette bénédiction semble lointaine. Alors, quels sont les péchés qui ont touché le peuple, qui, de ces personnes qui sont revenues? Alors, le texte ne le dit pas directement, mais on peut avoir une idée en lisant le livre de Néhémie. Donc Néhémie faisait partie de ceux qui étaient revenus. C'était une des premières vagues de retour de Babylone. Il y en a eu plusieurs parce que en fait les Israélites ne voulaient pas tous revenir. Ils se sentaient bien, certains, en exil à Babylone. Mais donc Néhémie décrit plusieurs choses, plusieurs péchés dans lesquels le peuple est tombé. Par exemple, en Néhémie 5, on peut lire qu'il y a une grande cupidité de la part des responsables, de la part des leaders, de la part des magistrats juifs. Et cette cupidité, elle allait très très loin, c'est-à-dire qu'ils prenaient les champs de leurs propres concitoyens, leurs maisons, et même ils acceptaient que leurs propres concitoyens se vendent à eux comme esclaves. Et Néhémie critique ça et dit que c'est un péché. En Néhémie 10 et en Néhémie 13, on lit qu'il y a eu, des mariages mixtes, c'est-à-dire que les Israélites se sont mélangés avec les peuples qui étaient sur place, que Dieu avait formellement interdit, n'est-ce pas? Et on voit aussi, dans les mêmes chapitres 10 et 13, une violation du jour du repos, le sabbat que Dieu avait prescrit pour que les Israélites se reposent ce jour-là. Eh bien, ils passent par-dessus pour pouvoir profiter du matérialisme, de la bonne nourriture, de toutes ces choses. Donc il y a ces péchés qui sont là. On peut aussi penser au fait que voilà, donc ces Israélites retournent dans leur pays. Et qu'est-ce qu'ils voient lorsqu'ils retournent? Ils voient des villages, des villes en ruine. Et ils voient la capitale, la fierté hein, du royaume avant d'Israël, la capitale, la muraille puissante, en ruine aussi, des brèches partout. Ils voient le temple qui n'est plus là. Et donc, d'une certaine manière, oui, Dieu les a rétablis, mais Dieu ne les a pas complètement rétablis. C'est pas comme avant. Dieu est encore lointain. Et face à ça, face à cette réalité qui se montre à eux, ils se rendent compte, d'accord, ça va mieux, mais ça ne va pas encore bien. Et nous sommes chez nous, mais notre chez nous a changé. Et nous, on ne reconnaît pas cette terre que Dieu nous avait donnée. Et donc, d'une certaine manière, le jugement est encore visible, le jugement est encore là, il est encore présent. Et donc, dans ce contexte, on comprend bien ce verset 5, n'est-ce pas? Rétablis-nous, Dieu, de notre salut. On peut aussi dire, restaure-nous, ramène-nous là où nous étions, ramène-nous proche de toi. Et c'est cet homme qui a écrit ce chant, à travers ces mots, il nous montre quelque chose, c'est que il ne peut pas se restaurer lui-même. Ils sont face à des réalités qui sont ingérables humainement. C'est Dieu lui-même qui doit restaurer. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Seulement Dieu peut intervenir, seulement Dieu peut sauver. Et seulement Dieu peut restaurer, détourner de notre péché. Parce qu'en fait, si Dieu se détourne seulement de sa colère, si Dieu se détourne seulement de notre péché d'aujourd'hui, le psalmiste sait très bien que demain, Dieu à nouveau sera en colère. Parce que je vais continuer à pécher. Je vais continuer à faire ce que Dieu a ce que Dieu haït. Et donc, c'est pour ça qu'il se tourne ici vers Dieu, mais en disant, Seigneur, attaque la racine de ce mal, la racine qui est dans mon péché. Sinon, à nouveau, demain, ta colère sera là. Sinon, à nouveau, demain, il va falloir que tu restaures tout. Donc, détourne-nous de nos propres péchés. C'est cette idée qui clairement ressort de ce verset. Parce que faire qu'un cœur se tourne vers Dieu, c'est aussi difficile que de faire que la terre se tourne autour de son axe. Et c'est ce dont le peuple de Dieu a besoin. Que leur cœur soit tourné vers Dieu encore et encore. Au verset 6, nous trouvons plusieurs questions. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Et la question attendue est clairement non. Non, tu ne vas pas t'irriter contre nous à jamais. Ici, on a vraiment une belle confiance de cet homme qui s'adresse à Dieu. Étendras-tu ta colère de génération en génération? Et encore une fois, la réponse attendue est non. Tu n'étendras pas ta colère de génération en génération. Pourquoi est-ce qu'il y a cette confiance que la réponse est non? Eh bien, parce qu'il se repose, le psalmiste se repose sur les versets 2 à 4. Il se repose sur le fait que Dieu a pardonné dans leur passé. Dieu est revenu de l'ardeur de sa colère dans le passé. Et parce que Dieu a fait ça dans le passé, il sait qu'aujourd'hui, je peux prier de cette manière-là, en sachant non, tu ne vas pas rester en colère contre nous. Parce que dans le passé, tu ne l'as pas fait. Donc, demain, tu ne le feras pas non plus. Parce que tu es, regardez, verset 2, l'Éternel, verset 8, l'Éternel, verset 9, l'Éternel, verset 13, l'Éternel, tu es qui tu étais, tu seras qui tu seras, tu ne changes pas, tu es notre roc, tu es inébranlable, tu restes qui tu es. Et c'est pour ça que nous pouvons prier avec cette assurance, avec cette confiance que tu interviendras. Dieu, à travers ce psaume, nous motive à prier de cette manière-là. À prier en nous reposant en réalité sur qui il est lui-même. Il est fidèle. Il est, et ce mot est tellement beau, c'est une tellement belle traduction hein, qu'on a trouvé pour le mot Yahvé, l'Éternel en français. Il est l'Éternel. Et c'est pour ça que nous pouvons nous attendre qu'il ne restera pas en colère. Et pourtant, en même temps, le psalmiste sait que donc il y avait quelque chose de beau, quelque chose de bon qui était là, qui s'est perdu, qui semble inatteignable. Hein, lorsqu'il dit « rétablis-nous », ça semble lointain, inatteignable humainement parlant. Et donc, ici, on a un contexte où les choses vont bien, où les choses vont mieux, mais il désire que les choses aillent bien. Et il demande un plus. Donc, il y a de la grâce que Dieu a donnée à son peuple, mais il demande plus encore de grâce. Dieu est intervenu, il demande qu'il intervienne encore plus. Dans cette prière, on voit réellement un courage. J'ai envie de dire un courage. Alors que cet homme s'adresse à Dieu, il a du courage, de la hardiesse. Il ose parler comme ça à Dieu. Mais il ose parler comme ça, non pas parce qu'il est orgueilleux ou... Non, il ose parler comme ça parce que Dieu est l'Éternel. Et donc, quelque chose de beau s'est perdu. Alors, si vous ne connaissez pas Dieu, vous allez penser à des choses qui sont belles sur cette terre, à un voyage, à un succès professionnel qui était impressionnant à vos yeux, une rencontre. Peut-être même lorsqu'on est chrétien, on peut penser juste à des choses comme ça, à des choses belles qu'on rencontre sur terre. Et après, on peut être rempli de nostalgie lorsqu'on pense à ça. Oui, donc c'est lointain, cette belle chose. Ça semble inatteignable. Mais ici, en fait, c'est vraiment tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose dont Dieu nous parle à travers ce psaume. Parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose, mais quelqu'un qui n'est plus là, comme avant. C'est l'auteur de ces lignes qui nous dit que Dieu n'est plus là comme avant. Et donc l'auteur de ces lignes, on voit vraiment son cœur qui ressort ici. Bien sûr, il est heureux des dons de Dieu, du pardon que Dieu donne. Mais il ne se contente pas du pardon. Il veut connaître l'auteur de ce pardon. Il est heureux de la colère de Dieu qui s'est retirée. Mais il veut connaître ce Dieu juste, il veut le voir, il veut être proche de lui. Et on sent vraiment ce cœur qui désire Dieu, qui désire être proche de lui, mais Dieu est lointain. Et vous savez, lorsque celui qui a donné tout ce qui est beau sur cette terre, tout don qu'on peut connaître, toute belle chose, lorsque celui-là vous rencontre, la source, l'origine de tout ce qui est bien et beau sur cette terre, alors ça vous éblouit tellement, et vous connaissez quelque chose de tellement indescriptible, qu'une fois que vous l'avez rencontré, vous souhaitez chaque jour à nouveau connaître cette proximité. Et cette chose indescriptible, c'est ce que dans le Nouveau Testament, Pierre nous décrit en 1 Pierre 1,8 comme étant une joie indescriptible et glorieuse. Une joie indescriptible et glorieuse. Et c'est exactement pour cette chose-là, hein, de connaître Dieu, de connaître cette joie que Dieu donne, que l'auteur va maintenant prier au verset 7. Et c'est vraiment le verset clé de tout ce passage. Et il est tellement beau ce verset, donc je vous invite vraiment, écoutez bien. Si vous écoutez quelque chose, écoutez ce verset, là, ce matin, le verset 7. N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Et en hébreu, vraiment, ce toi, il ressort. N'est-ce pas toi, toi, qui va revenir nous faire vivre? Afin que ton peuple se réjouisse en toi. Et encore une fois, ce toi, il ressort, il y a l'emphase. N'est-ce pas toi qui va à nouveau nous ranimer? Toi, l'Éternel. Ranimer parce que lorsque Dieu se détourne, nous qui l'avons connu, nous nous sentons plus vivants, nous nous sentons vides, nous avons un manque. Et lui seul peut rétablir, comme nous l'avons vu au verset 5. Lui seul peut restaurer notre âme. Et notez bien que c'est toi, n'est-ce pas toi qui va revenir nous faire vivre? Donc c'est toi, et non pas, donc c'est Dieu. Et non pas comme le pensent hélas beaucoup de protestants évangéliques aujourd'hui, c'est notre piété qui va nous ranimer. Notre foi va nous aider. C'est notre intelligence, c'est nos systèmes de pensée qui vont nous ranimer. C'est notre pasteur qui va nous ranimer. C'est nos capacités à organiser qui vont nous ranimer. C'est nos choses que nous créons qui vont nous porter vers Dieu, qui vont le porter vers nous et qui vont donc nous faire revivre. Non, c'est toi, c'est ce verset nous dit, c'est l'Éternel qui doit revenir nous faire vivre. Et le danger est grand pour chacun d'entre nous, hein, de penser comme ça. Et donc vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être humble et à reconnaître que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend vraiment de l'Éternel. Et donc qu'il nous aide à arrêter de penser que les choses dépendent de nous. Non, c'est lui qui doit revenir vers nous. Et ouais, que Dieu nous donne la foi pour que nous voyons que ça dépend de lui et de lui seul. Alors l'Église aussi, donc là nous voyons l'Église de l'Ancien Testament. L'Église aujourd'hui a besoin d'être vivifiée encore et encore et encore et encore et encore à travers les siècles. Et il faut que Dieu le fasse par, et ça on le verra, Dieu voulant, lorsque je pourrai continuer à prêcher sur ce psaume, Dieu vivifie par sa parole, par son esprit, l'esprit qui agit à travers la parole. Mais nous avons besoin de ça, d'être vivifiés. Sinon nous sommes comme les églises de l'Apocalypse, Laodicée, par exemple, qui a... on dit d'elle qu'elle est vivante, mais elle est morte. Par nous-mêmes, nous tirons les choses vers le bas, mais Dieu doit nous retirer vers le haut. Il reste celui qui sauve. Hein, il nous sauve le jour de notre conversion, bien sûr. Mais il continue à nous porter, à nous sauver. Et c'est pareil pour l'Église, il continue à la chérir, à la nourrir, à la sauver, à l'aider à intervenir. Et donc l'Église a besoin de ça, de ce Dieu qui rétablit, de ce Dieu qui vivifie. Et nous voyons donc que le Dieu éternel, ce Dieu qui est décrit dans ce verset comme étant toi, c'est un Dieu personnel. Toi, c'est personnel. C'est pas le Dieu distant. C'est le Dieu qui devient personnel, qui vient vers nous. C'est le Dieu de l'Alliance, qui vient vers Abraham, qui vient vers Isaac, qui vient vers Jacob, qui fait une alliance avec eux. C'est le Dieu des promesses. C'est le Dieu qui annonce qu'il fera du bien à travers Abraham, à tous les peuples. C'est le Dieu qui a fait des promesses aux patriarches. Oui. C'est le Dieu de l'Exode, de la sortie de l'Égypte, qui a conduit son peuple dans le désert, qui a gardé un reste vivant, qui l'a conduit dans la terre promise, qui a donné cette terre à ce peuple. C'est ce Dieu qui donne la vie, c'est ce Dieu qui garde son peuple en vie. C'est ce Dieu-là, le toi, le Dieu personnel. Et c'est ce Dieu, et c'est là que se termine l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que l'Ancien Testament est un livre qui n'est pas encore terminé. Parce que l'Ancien Testament nous annonce l'attente du Messie, d'un Sauveur. Et c'est ce Dieu qui donne la promesse qu'il y aura le Sauveur qui viendra, qui rétablira, qui ranimera et qui donnera une toute nouvelle vie. Une vie magnifique, glorieuse. Une joie glorieuse à travers lui. Et nous savons que c'est Jésus-Christ qui est venu. C'est ce Dieu qui se fait proche. Ce Dieu qui vient parmi nous. Et c'est ce Dieu aussi qui va apporter tout à sa perfection. C'est ce Dieu qui promet qu'il reviendra et qu'il va établir son ciel sur cette terre. C'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est ce Dieu-là qui est imploré ici. C'est ce Dieu vivant. Et donc ce Dieu-là, qui est l'Éternel, Dieu notre Père, qui est toi, Dieu proche, et nous le voyons en Christ, comment il devient proche. C'est ce Dieu-là qui dit, qui nous fait, qui nous met en nous cet esprit, qui s'écrie, ne vas-tu pas nous ranimer? Ne vas-tu pas revenir vers nous? Et la réponse donc, là encore une fois, non, Seigneur, tu ne vas pas permettre que nous tombions dans une inertie totale, dans une mort totale, dans un sommeil total plutôt, puisque un enfant de Dieu ne meurt jamais, mais nous ne tomberons jamais dans un sommeil total. Et non, ce Dieu qui nous a déjà restaurés auparavant, il va sûrement, sûrement, certainement encore revenir nous restaurer et nous faire du bien. Car il est bonté. Et il fait le bien envers nous. Et nous voyons au verset 7 en même temps le but que Dieu voit pour nous dans notre vie. Hein, c'est l'inventeur qui connaît le mieux le but de sa machine. Hein, celui qui a inventé des machines complexes en cuisine, bon, je les connais moins bien, mais la personne qui a inventé donc cette machine qui connaît le mieux comment elle fonctionne et quel est son but. Dieu n'a pas inventé une machine, bien sûr. Dieu nous a inventé nous, les êtres vivants, et il sait le mieux notre but, pourquoi nous sommes là. Et il nous révèle ici, dans le verset 7, donc qu'il veut nous faire vivre pour que, afin que ton peuple se réjouisse en toi. C'est là le but de ta vie, c'est de te réjouir dans ton Créateur. En Dieu lui-même. Alors, dans le contexte, hein, on voit ces Israélites, ils trouvent leur joie, ou ils essayent de trouver leur joie dans ce que Dieu a créé, dans la famille, dans la sexualité, dans la nourriture, dans un matérialisme. Et Dieu, ici, à travers ce psaume, nous révèle, tout ça, c'est des dons. Et on pervertit ces dons si on les met au centre de toute chose, si ça devient notre Dieu. Mais je vous ai créé pour vous réjouir en moi. Et donc venez à moi. Laissez-moi venir à vous. Et donc la vraie joie est en lui, notre Créateur. Notre Créateur. Et sa beauté dépasse infiniment toute la beauté créée. Lui est la source de toute beauté. Et donc, la réponse attendue ici, effectivement, oui, il va encore revenir vers nous et faire que nous nous réjouissions en lui. Alors, il le fait personnellement, n'est-ce pas, dans notre vie chrétienne, encore et encore, Dieu nous fait monter lorsque nous allons mal. Lorsque nous tombons dans des péchés et lorsque nous sentons loin de lui, il nous ramène à lui. Il nous parle à travers sa parole, il nous fait du bien, il nous ramène encore et encore à lui, il nous fait revivre. Donc on peut, dans un sens, connaître ça chacun d'entre nous dans notre vie chrétienne, cette réanimation, si on veut, cette joie qu'on retrouve en lui. Et peut-être que vous vous trouvez aujourd'hui ici et vous êtes... Vous vous sentez à terre, la joie vous semble lointaine. J'ai envie de vous dire, regardez à ce Dieu, regardez à ce Dieu qui s'est fait homme. Maintenant, nous avons son visage. À l'époque, les Israélites n'avaient pas son visage. Maintenant, nous savons que celui qui est décrit comme étant, au verset 8, ta bienveillance, ton ferme amour, on peut traduire aussi. Eh bien, ce Dieu qui est ta bienveillance, ton ferme amour. Eh bien, il s'est révélé en Jésus-Christ. Et en lui, nous pouvons retrouver, si nous sommes aujourd'hui à terre, si nous allons mal, regardons à lui. et revivons. Parce que Dieu veut que nous vivions. Dieu veut votre bien. Et donc, regardons à lui. Notre salut, verset 8 aussi, donne-nous ton salut. En Jésus, nous avons son salut. Et donc, il y a cet élément personnel que Dieu nous ranime encore et encore. Il y a aussi un élément plus aussi personnel, mais de groupe où Dieu ramène de temps en temps dans l'histoire un grand groupe de personnes à lui, où il fait découvrir à beaucoup de personnes en même temps cette joie qui est là en Christ. Et c'est ce que nous appelons les temps de réveil, les temps où beaucoup de personnes sont réveillées de leur sommeil, et pour ceux qui ne croient pas, de leur mort spirituelle, et connaissent d'une manière tout à fait exceptionnelle ce verset 7 et cette joie qui est là en Christ lorsqu'il regarde à lui, lorsqu'il voit en lui ce poids qui était là avant, des péchés qui étaient là avant, et cette libération que Dieu nous donne en Christ lorsque nous regardons à lui, lorsque nous croyons en lui. Et je veux juste rapidement, parce que c'est une réalité, parler du réveil qui a eu lieu. Il y a eu de nombreux réveils en Europe, en France. Je veux parler aujourd'hui du réveil du 19e siècle. Il y a eu au début du 19e siècle toute une période de plusieurs réveils. Et ce réveil, ces réveils, a laissé des traces profondes en toute l'Europe. Et nous pouvons jusqu'à aujourd'hui bénéficier de ces grandes bénédictions de ce réveil du 19e siècle. Alors, je vais vous parler de trois pays, quatre, rapidement. Donc, à cette époque, dans le sud de l'Allemagne, il y a eu des prédicateurs qui, tout à coup, eh bien, ils ont découvert cette joie en Christ et ils ont commencé à prêcher avec un nouveau zèle. Et on lit dans les livres d'histoire qu'il y a eu de nombreuses personnes qui sont venues, qui ont afflué dans les églises. Et il y a des personnes qui ont marché jusqu'à 12 heures, 12 heures, un dimanche, chaque dimanche, pour entendre prêcher ces prédicateurs-là. Un vrai zèle pour la parole de Dieu. En Angleterre, aussi en Allemagne, ce réveil-là a fait que l'alcoolisme a baissé de manière vraiment radicale dans la population. Il y a eu de nombreux hommes qui ne se souciaient pas de leur famille avant ce réveil, qui tout à coup se voyaient changer, leur vie transformée, et qui tout à coup sont devenus des bons pères, des bons maris. On voit de nombreuses œuvres missionnaires caritatives qui sont nées à cette époque-là, qui ont combattu la pauvreté, qui ont aidé les malades, et qui le font encore jusqu'à aujourd'hui. Et en France et en Suisse, on a des prédicateurs comme ça qui aussi, en même temps, au même moment, découvrent cette joie en Christ, découvrent cette libération du péché, cette libération, cette nouvelle vie. Et entre autres, il y a Henri Pitt. Alors, je veux un tout petit peu vous parler de lui. Donc, il a étudié à Genève, il a œuvré à Genève aussi, mais pas que. Alors, son ministère a été très court, hein. Il est mort très jeune, à 39 ans. Il a juste eu un ministère de 17 années. Mais pendant ces années, quel zèle quand on voit sa vie. Quelle joie d'annoncer Christ. Quelle ferveur. Il a voyagé dans presque toute l'Europe, bon, dans une grande partie de l'Europe. Donc, à Genève, il a œuvré en Irlande, en Espagne. Et beaucoup en France, il a beaucoup beaucoup bougé en France. Il était sur Paris, Valenciennes, l'Eure-et-Loir, au Pays Basque. Il apprend exprès l'occitan, il apprend exprès l'espagnol pour pouvoir annoncer ce grand sauveur à ces personnes aussi dans ces coins de l'Europe, de la France. Il était un grand orateur, un grand apologète. Il a sillonné donc, évangélisé partout où il passait. Il y a de nombreuses personnes qui se sont converties à travers son ministère. Et donc, à Guillonville, c'est proche d'Orléans. Il arrive là-bas et en 7 mois, il sillonne en fait toute la région à pied. Il va de maison en maison, il annonce l'évangile et l'église en fait là-bas renaît après plus d'un siècle et demi d'isolement, de persécution, de manque d'enseignement. Dieu envoie un réveil à travers cet homme. Et nous avons ce même Dieu, n'est-ce pas? Nous avons ce même Dieu qui a agi à travers les siècles. On peut bien sûr penser à d'autres réveils encore. Nous avons ce même Dieu. Et lorsque nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous nous rendons compte, nous avons besoin que ce même Dieu qui a agi si puissamment dans le passé, qu'il, et pas nous, mais qu'il agisse, parce que nous ne pouvons pas changer les cœurs, qu'il ramène, qu'il amène à la vie, qu'il ramène à la vie, qu'il donne cette joie, cette vraie joie, aux hommes, aux femmes, autour de nous, à nous-mêmes, déjà, en commençant. Oui, et donc, que Dieu nous aide à prier comme ce psalmiste ici. Et à nous adresser à Dieu avec courage, qui nous aide à être reconnaissants, hein, comme le psalmiste dans ses premiers versets. Ce serait un péché de juste dire Seigneur, fais ça, fais ça, fais ça. Non, il a agi, donc soyons reconnaissants. Mais ne restons bien sûr pas là. Demandons plus encore, parce que lui, il aime qu'on lui demande, et il aime agir. Il y aurait encore beaucoup à dire. J'ai juste envie de dire pour terminer, implorons Dieu qui nous accorde dans ces jours qui sont pas faciles, où nous avons tellement, tellement besoin de lui, qu'il nous accorde cette grâce de prier comme cet homme ici a prié, et qu'il nous accorde la grâce de voir des réponses. Et comme il est le même, nous pouvons être sûrs qu'il répondra en son temps, mais il répondra. Et en attendant, chers amis, regardons à Christ, regardons à lui, et nous pouvons resplendir de joie, parce que c'est lui la source de notre joie.